Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, il est 20h01 en ce jeudi soir, merci d'être là. Tech & Co avec ce soir pour commenter l'actualité jusqu'à 20h30, Salim Nassur qui est le fondateur de Mars, à tes côtés Salim, c'est Jérôme Marin, le fondateur de CaféTech.fr et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Parlons de Meta maintenant, puisque Meta pourrait se lancer dans le cloud dédié à l'IA. On en avait parlé il y a quelques temps de cela, c'était SpaceX qui avait loué et qui loue encore ses capacités excédentaires de puissance de calcul à des acteurs tiers, voire même concurrents, et c'était le cas d'Anthropic.
De Google aussi.
Mmh. Et c'est des contrats à plusieurs milliards, bien évidemment. Meta se dit, j'ai beaucoup de puissance, mais qu'est-ce que je vais en faire cette puissance si je la louais.
Ouais, je ne vais pas la remiser par deux vers moi, je vais la...
Exactement. Mark Zuckerberg, c'est bien beau, mais il ne peut pas utiliser toute cette puissance. Qu'est-ce que vous en pensez, Salim?
Je pense que...
Ça devient intéressant de voir que tous ces acteurs, aujourd'hui, travaillent presque en marque blanche pour faire du business avec des concurrents potentiels.
En fait, ce qui est assez, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, il reprend le modèle AWS, en fait. Ça rappelle à l'époque où Jeff Bezos avait acheté plein d'infrastructures en pensant au développement d'Amazon. Et à un moment, il s'est dit, qu'est-ce que je fais avec toute cette infrastructure? Je vais la louer. Et ils ont créé AWS.
C'est la même chose
quand tu regardes.
C'est une sacrée histoire, ça.
C'est pas venu de Jeff Bezos. C'est venu, on l'avait rencontré il y a longtemps.
Oui.
Un patron qui est arrivé en disant, faut qu'on fasse autre chose, qu'on a une infrastructure qui marche un peu quand les pics d'audience et tout ça. Mais là.
C'était pas Andy Rubin.
C'était un patron d'innovation. Le nom me reviendra pas parce que. Et c'est lui. Il nous avait raconté un peu comment il va voir Jeff Bezos. Il dit, tous ces trucs-là, on devrait le louer. L'autre dit, écoute, fais-moi un business model, tu me montres ça et puis hop, c'est parti.
Ouais.
Et pendant longtemps, ça a été la seule activité bénéficiaire.
Ce qui a peut-être tenu à flot Amazon dans sa globalité, parce que le e-commerce d'Amazon a mis des années avant à décoller.
Et Google, c'était pareil. Google avait de l'argent grâce à la pub, si tu veux.
Oui.
Mais pareil, au tout début de Google Cloud, pour le coup, là, je connais bien, c'était la même chose. C'était de se dire, il y a cette capacité et toute cette infrastructure mondiale qui a été mise en place pour Google, on va la louer. Là, c'est un peu la même chose avec la différence, c'est intéressant, qui est... juste pour revenir sur Zuckerberg, il avait fait à un moment une razzia sur les GPU Nvidia. Donc il en avait plein, donc maintenant il est en train de les relouer. Là, ça devient intéressant par rapport à avant. Avant, on se rendait compte que les différents, comme on l'appelle, les GAFAM, qu'on a changé de nom depuis, mais ils avaient tous une spécialisation. Là, tu te rends compte que tous, ils commencent à avoir une verticalisation et ils ont toutes les couches, en fait, maintenant. Tu vois, donc chacun a ses
la puissance de calcul.
Et on parlait tout à l'heure d'Elon Musk, mais même l'interface utilisateur. Donc tout le monde veut avoir un peu de tout. Et puis comme tu manques un peu, tu te reloues aux copains à droite, à gauche. C'est assez intéressant.
Jérôme.
Ouais, non, mais à voir déjà si ça se concrétise. Je vais être négatif une nouvelle fois, mais après, moi, je trouve que c'est intéressant. Ce qui me fait un peu rire ou pas, mais ce que je trouve assez rigolo, c'est que Meta dépense beaucoup d'argent pour faire de l'infrastructure et notamment a signé des contrats avec ce qu'on appelle des néo-clouds, donc notamment une entreprise qui s'appelle CoreWeave, qui est une entreprise américaine, où ils ont dépensé des milliards de dollars pour récupérer de la capacité de calcul chez eux. Et là, dans l'article, on dit, peut-être qu'ils vont louer de la capacité de calcul à qui? À CoreWeave. Donc en fait, chacun se loue de la capacité de calcul parce que ça dépend quand on a des data centers qui sont là ou pas. Enfin, je trouve ça assez rigolo.
Et puis c'est peut-être pas le même type de calcul aussi, peut-être, non?
Là, je pense que c'est quand même
c'est
la même chose.
C'est pas pareil.
Mais ouais. Après aussi, avoir. Tu parlais de XAI qui fait ça. XAI le fait parce qu'ils ont bâti deux immenses data centers à Memphis qui sont pas utilisés parce que XAI est pas utilisé. Meta, ils sont un peu dans la même chose. Est-ce qu'ils ont tellement investi dans l'IA pour avoir cette infrastructure parce qu'ils se disent tous les gens vont utiliser Meta AI. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui utilisent Meta AI. Alors peut-être, et quand il y a ça, alors il y a le côté positif, tu dis, ils vont mettre une nouvelle corde à leur arc et ils développent une nouvelle activité, un nouveau relais de croissance. Ou alors, tu as le côté un peu plus sceptique en disant, ils font ça parce que ils ont tellement investi que leur data center, ils ne servent à rien. Donc, ils les louent pour rentabiliser leur investissement. À voir, en tout cas...
À quel moment c'est négatif?
Je dis pas que c'est négatif.
C'est bien, de toute façon.
Oui. Non, mais après,
est-ce qu'il ne le dit pas en souriant?
Oui. Je ne souris jamais, moi.
C'est bien pour eux.
Oui.
Ça s'appelle pivoter dans la Silicon Valley, donc ils pivotent.
Oui, je ne dis pas que c'est négatif. Après, à voir si c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Et d'ailleurs, Wall Street a plutôt apprécié l'annonce. Alors que depuis des mois, l'action de Meta chute parce qu'on se demande justement qu'est-ce que tout cet argent va devenir. Donc, à voir si c'est vraiment un vrai pivot ou si c'est temporaire parce que Meta AI va marcher plus tard ou pas.
Il y a plusieurs choses derrière tout ça. Déjà, il faut un peu rassurer les investisseurs.
Bien sûr.
Ça, voilà, ça, c'est quand même toujours un point important. Faut toujours les voir que derrière, ils regardent ce que font leurs investissements. On n'arrête pas de le dire, l'IA devient vraiment une industrie d'infrastructure. Hein. On le voit tous. Hein, si Mistral, pour les citer, cherche à construire des data centers et tout ça, c'est pour gagner de l'argent. C'est pas avec les services ESN là qui vont arriver au milliard, au 2 milliards, au 5 milliards, au 10 milliards de chiffre d'affaires. Il faut passer par du compute, il faut passer par du centre de calcul. Et puis derrière, ça veut dire aussi que Meta, comme tu disais, ils pivotent et ils sont peut-être en train aussi de regarder, tu sais, de faire un peu comme fait Amazon Bedrock. Ils vont proposer plusieurs modèles d'IA et devenir vraiment un nouveau modèle de revenus. Mm-hmm. Pour se dire, après tout, on a l'infra, on a les ingénieurs. L'IA, il y a la nôtre, mais on pourra peut-être en mettre d'autres comme fait Amazon avec Bedrock. Allons-y, quoi. On a les GPU, on a les GPU derrière, et puis voilà. Et puis dans ce domaine-là, on n'est pas non plus des manchots. Je pense qu'elle, moi, ce pour qui je craindrais un peu, c'est tous les néo-clouds, là, les CoreWeave, les Nebius. Oui. Moi, pour eux, là, je commencerai à me dire oula.
Ça va tant que le marché continue de croître, en fait.
Ouais.
Si le marché arrête de croître. Hein.
C'est eux qui les premiers qui vont trinquer.
Bah, surtout en plus, ils sont tellement endettés.
Regardez, les télécoms, c'était ça. Hein, ça marchait tant que le marché croît. Le jour où ça stagne un peu.
Et puis même pour Meta, là, pour le coup, c'est moi qui serais négatif. Mais il commence à y avoir pas mal d'acteurs, si tu veux. Parce que quand tu mets. Moi, je dis toujours, dans n'importe quel marché, au-delà de 3, il y en a un de trop. Et là, tu as déjà quand même Google qui est bien, tu as Amazon, tu as Microsoft, il y a Oracle qui est en embuscade.
Ouais, c'est ça.
Tout le monde commence à s'y mettre. Mais après, vous parliez de la bourse et c'est vrai que. Quand tu regardes d'un point de vue marché, entre un revenu de pub qui est cyclique et un revenu d'infrastructure qui, lui, génère tout le temps, en général, on préfère le revenu qui est plus récurrent.
Ouais, mais le revenu pub a fait de bien plus belles marges.
Oui.
Donc, la pub.
Forcément.
Meta, ils ont une très belle marge que n'a pas, pas le cloud, en tout cas.
Pas. Forcément. Aujourd'hui, oui, mais je suis pas sûr.
Après,
tu vois.
Ce qui est intéressant.
Après, tu te rends compte les investissements que ça représente.
Aujourd'hui,
les achats des puces GPU que Nvidia vend des fortunes. C'est vrai que la publicité, c'est de l'argent facile finalement. Alors, je suis pas en train de dire que c'est comme ça, mais toute la structure existe déjà chez Meta. Tu vois.
Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est, tu vois, je relis ça à une autre news que j'ai vu passer tout à l'heure, c'est Anthropic qui a signé avec Samsung. Pour développer des puces IA. C'est qu'on se rend compte que tous.
Oui.
Et moi, je me dis, mais. Enfin, je ne serais pas patron de ces boîtes-là. Le champ des possibles. Et si on développait des puces? Attends, on a déjà les serveurs, on est en train de développer le modèle.
Peut-être qu'un jour, on va se retrouver devant une montagne de puces inutilisées.
Ils se tournent, ils veulent contrôler un peu l'ensemble de la chaîne de valeur.
Ouais,
après, tu les vois tous, ils sont en train de sortir des IA un peu plus spécialisées pour le monde de l'assurance, pour le monde de la santé. Enfin, je trouve ça complètement dingue, quoi.
Bah, c'est Meta, la verticalisation.
Et je crois que Meta, ils ont compris qu'ils ont l'infrastructure, ils ont vraiment la base, le socle. Les GPU, parce qu'ils sont plusieurs, ils continueront à l'acheter. Donc, pourquoi pas se lancer là-dedans? Allons-y, c'est parti. Et voilà, nouvel acteur, les Max 7, comme ils appellent maintenant.
20h10, allez, on va continuer dans cette course folle à l'IA et nous intéresser à Yves Infineon, qui a inauguré aujourd'hui une usine de puces à Dresde avec 3 mois d'avance, un symbole des ambitions européennes de souveraineté technologique face à l'Asie et les États-Unis et de l'urgence aussi de se doter d'une industrie la plus indépendante possible dans le secteur des semi-conducteurs. Mais une étude parue aujourd'hui montre qu'on en est encore loin. Les explications d'Alexandra Paget et on revient juste après.
La Smart Power Fab de Dresde produit des puces dédiées à la gestion intelligente de l'énergie. L'usine s'insère dans le plan européen Chips Act qui vise à réduire les dépendances extérieures de l'Union. L'Europe ne parvient toutefois pas aux résultats escomptés car nous sommes très vulnérables, explique Pierre Sell, co-auteur pour l'Institut Montaigne.
L'industrie des semi-conducteurs, c'est l'industrie de la mondialisation par excellence. Une puce pouvait faire plusieurs fois le tour du monde avant d'arriver dans son produit final. Et donc, on parle de très loin.
L'Union européenne, malgré plus de 52 milliards d'euros d'investissements publics et privés, reste de son propre aveu dépendante des pays tiers. Le nouveau plan Chips Act 2.0 vise donc à faire en sorte que les gigafactories européennes puissent s'approvisionner en Europe, au moins en partie.
Être 100% autonome, Ce n'est pas possible. L'idéal, c'est d'avoir un petit peu de capacité partout pour que si jamais quelqu'un coupe le robinet, on puisse au moins remplir nos besoins pour les industries critiques, pour que nos industries de défense fonctionnent, pour que les hôpitaux qui auront besoin aussi de puces pour leurs scanners puissent fonctionner.
Objectif initial du programme CHIPS Act, doubler la part de l'Europe dans la production mondiale de semi-conducteurs de 10 à 20% d'ici 2030. Nous en sommes loin, à 10,5% en 2025.
Voilà, donc cette nouvelle usine, investissement, on le disait, Alexandra l'a dit, de 5 milliards d'euros, Infineon, et pas mal d'emplois à la clé, hein, je crois, c'est un millier d'emplois à terme. Voilà, bon, on sait pas trop, à quoi vont servir ces puces, en fait? On sait ou pas?
Il l'a dit tout à l'heure, là, dans le reportage. C'était pour... j'ai oublié d'ailleurs.
C'est pour l'automobile, c'est pour l'IA, c'est quoi?
C'est pour des industries critiques en fait. C'est qu'à un moment, tu ne peux pas, si tu parles de souveraineté, te dire je peux être en rupture. Ça me rappelle un peu le Covid où on avait oublié de produire des masques. Donc quand toutes les industries un peu critiques tournent sur de l'hardware qui est de Chine ou des États-Unis, faut bien avoir prévu une petite production pour nous, au cas où il faut continuer à faire tourner la
machine.
Alors,
c'est des puces pour des gestions intelligentes de l'énergie.
De l'énergie, ouais, exactement.
L'énergie. Voilà. Voiture.
Mais les puces d'IA en Europe, il faut oublier. Hein.
Enfin, ouais. Non, bien sûr.
Sauf si TSMC ouvre une usine, ce qui d'ailleurs était... l'Allemagne avait essayé d'inviter... Oui. Je crois que c'est toujours en cours, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, mais même là, ce n'est même pas des puces pour l'IA, ce serait plus des puces pour les voitures. C'est pour ça que c'est en Allemagne. Sur les puces, que dire? Je ne sais pas. Enfin, le rapport dont on parle, ils disent ce qu'on sait déjà, en fait, qu'on a une dépendance, que ce soit à la Chine pour les terres rares, notamment, par exemple, que ce soit à Taïwan pour la fabrication, que ce soit aux États-Unis pour la conception des puces et pour les choses comme ça. Donc, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas forcément d'issue. À court terme, en tout cas, je
pense que à se dire qu'on construira des puces très puissantes, on peut faire des 20 nanomètres et tout ça, mais ça devient trop compliqué. Mmh. Et je pense qu'il faut plus qu'on réfléchisse à comment on diversifie nos chaînes d'approvisionnement, comment on arrive à toujours
ce que fait un peu STMicro d'ailleurs.
Bah oui, c'est de trouver des business, mais voilà, avoir quelques acteurs qui peuvent jouer dessus, avoir ces différentes chaînes d'approvisionnement. Alors évidemment, on dépendra toujours un peu de la Chine, toujours un peu des US, mais voilà, on se fâchera jamais avec les deux en même temps.
Faut jamais dire jamais, mais bon. J'ai appris
On réussira toujours regarde l'histoire du monde et même l'histoire comment la France a réussi à se positionner. Ouais. Il y a des moments où elle était un peu.
L'histoire ne se répète pas toujours.
On ne se fâche avec personne. Mais alors, juste une chose. Ouais, donc, ces puces-là pourraient se retrouver dans les voitures électriques, mais en ce moment, c'est un peu compliqué.
Non, dans les centrales d'énergie. Ouais.
Voilà, les éoliennes, panneaux solaires, centres de données aussi. Centres de données, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais bon, voilà. En tous les cas, visiblement, il y aurait un marché pour ce type de puces fabriquées donc, dans cette nouvelle usine. Salim.
Non, en fait, moi, je reviens encore sur cette notion de souveraineté. Je pense qu'on... Tu vois, tu parlais d'STMicro. Je pense que l'Europe...
Avec Schneider aussi.
Ouais, non, mais tu vois, je pense que l'Europe devrait investir là-dedans. Quand tu prends l'exemple d'Intel, et moi, j'en faisais partie, hein, je pensais que c'était une boîte qui était morte. Et pourtant, l'État américain a réinvesti dedans. Quand tu regardes aujourd'hui, ils sont en train de repartir. Et donc, c'est jamais complètement perdu... avant que ce soit complètement perdu. Et je trouve qu'on ne met pas assez d'efforts, on n'a pas encore assez compris au niveau européen que c'est capital de ne plus dépendre des Américains qui ne sont plus nos amis, malheureusement. Et ça, on ne met pas assez d'efforts dedans.
Ça a été compris, puisqu'il y a le CHIPS Act qui a été mentionné dans le reportage.
Il n'est pas assez poussé.
Après, il y a une question d'argent aussi. Ouais. Il y a une question d'argent. Intel devait venir fabriquer des puces en Allemagne, et ils ont annulé parce qu'ils avaient pris. Après, il faut aussi être totalement réaliste. Pour créer des usines de puces, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de compétences. On n'a ni l'un ni l'autre. Donc, moi, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur, l'État, la Commission européenne devrait mettre plus d'argent. Je pense que la bataille, elle est perdue, en fait. Et il faut le savoir.
Après, même aux États-Unis, c'est compliqué. Pour les Américains.
C'est moi qui dis que la bataille est perdue. Pour une fois, j'ai trouvé quelqu'un qui dit encore plus que moi.
Une usine de puces, c'est 40 à 50 milliards. Et aujourd'hui, il va y avoir un politique européen qui va dire on va mettre 40 à 50 milliards parce que les puces, c'est important.
Non, mais même, on décide de fabriquer cette usine, il faut tout l'écosystème autour pour que...
C'est pour ça que je dis les chaînes d'approvisionnement.
Les composants qui doivent être dans ces puces-là soient à proximité. C'est ça qui est incroyable en Chine. Et les États-Unis ont le même problème que nous, finalement. Aujourd'hui, ils ont du mal à... reproduire le schéma chinois, parce que ils ont pas la capacité.
Mais t'es d'accord que si tu commences pas un jour, tu n'y arriveras jamais.
Puis t'as un gros problème de compétences quand même. Tu parlais d'Intel. Intel, leur gros problème, c'est la culture de tous les gens qui sont dans la boîte. Alors certes, il y a un nouveau PDG, certes, il essaie de donner un nouvel élan, mais enfin, là, t'as encore.
On attend qu'ils montent, qu'ils sont capables d'un.
Et puis 60 à 70% des employés d'Intel aujourd'hui, c'est des gens qui ont encore connu un peu les belles années d'il y a 15 ans. Qui sont encore un peu ancrés là-dedans en disant vous verrez, on va s'en sortir. Bon, moi je pense qu'Intel va remonter aussi, elle va repartir, mais voilà, il faut du sang neuf, et ce sang neuf, ils l'ont pas forcément, et nous en Europe on l'a encore moins. Donc,
on en revient à l'état d'esprit dont je parlais au départ.
Jérôme, là-dessus.
Non, c'est sûr.
Et dernière chose, c'est que tu l'as vu quand Intel avait dit tiens, on va installer en Allemagne, mais il a levé. Enfin, tout le monde s'est dit, on n'a pas une Union européenne aussi là-dessus. On va dire pourquoi en Allemagne et pourquoi. Tu vois, si encore on disait non, mais c'est vrai. Si encore on disait tiens, l'Allemagne pour la construction des puces, la France pour la partie logicielle, l'Angleterre pas en Europe, mais voilà, Pays-Bas pour tel. Tu vois, si on répartit un peu les rôles, mais on sait pas faire ça.
Non.
Tout le monde veut son petit bout en saupoudre, et puis c'est mal parti.
Et pendant ce temps-là, Tim Cook est là en train de chercher, avec son détecteur de RAM, de la RAM un peu disponible à droite à gauche. Parce que, sans RAM, pas d'iPhone, pas de Mac, pas d'iPad, pas d'Apple, finalement.
Sans RAM, c'est la galère, c'est ça ?
Sans RAM, c'est la galère. Elle est pas mal ! Elle est pas mal ! Et je pense que Tim Cook rame en ce moment, justement, pour essayer d'en trouver. Je crois qu'on les a toutes faites. C'est promis, on n'ira pas plus loin. Jérôme, avant que t'en aies une autre.
Non,
on est bon là.
C'est bon.
Ok, très bien. Et donc Apple essaie de chercher tous azimuts de la RAM, et il se trouve que il y aurait eu la possibilité de trouver un fournisseur chinois qui s'appelle CXMT. Le seul problème, c'est que ça va pas se faire visiblement, parce que la Chine ne veut pas. C'est une boîte qui est donc chinoise. Est-ce que Trump va autoriser Apple à se fournir en RAM chinoise? Non. Et on se rend compte que même Apple, qui est quand même, on va dire, une boîte, si ce n'est la boîte la plus puissante du monde, se heurte, en fait, aujourd'hui, à cette pénurie de RAM et ne peut pas faire ce qu'il veut.
Il faudra quand même, c'est un changement totalement de paradigme. Pendant des années, c'est Apple qui dictait, et Samsung, mais beaucoup Apple qui dictait la loi. Et le patron de Micron a dit, Micron, c'est l'un des grands fournisseurs de RAM, a dit, c'est la faute d'Apple aujourd'hui, parce que c'est Apple, pendant des années, ils ont fait pression pour que les prix baissent, donc nous, on n'a pas pu investir. Aujourd'hui, Apple.
c'est fort quand même.
Non, mais en 2023, il y a trois ans, il faut se rappeler que tous les fabricants de puces mémoire étaient dans le rouge. Ils perdaient de l'argent, ils perdaient des milliards de dollars.
Oui.
Aujourd'hui, on est en 2026, ils gagnent des dizaines, des centaines de milliards de dollars. Donc, c'est incroyable le retournement qu'il y a eu. Aujourd'hui, Apple.
C'est l'arroseur arrosé, quoi, finalement.
Apple est aujourd'hui en concurrence avec des boîtes qui font de l'IA, qui ont beaucoup d'argent, et surtout qui. Ce que ne fait jamais Apple, c'est de mettre de l'argent en avance. Aujourd'hui, quand tu es à Nvidia, que tu veux chercher de la RAM pour mettre sur ton GPU, tu dis je vous donne tant de milliards pour sécuriser. Tant de RAM pendant tant de mois.
Et Apple ne faisait pas ça.
Apple ne fait jamais ça. Apple, eux, ils ont tellement un pouvoir de prix qu'ils ont. On va négocier et petit à petit.
D'ailleurs, ils étaient peu à faire ça.
Il n'y a que l'IA qui fait ça. Parce que l'IA, ça a changé tellement la donne. Il y a tellement des besoins qui sont importants. Il y a tellement de moyens, finalement. L'argent qu'il y a, que les gens, ces boîtes ont, elles peuvent mettre. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, Apple est dans une situation où ils n'ont pas assez de RAM, de faire autre chose. Et donc, il y a des analystes qui disent, mais ça se trouve, l'iPhone 18 qui sort là en septembre, il y aura peut-être entre 10 et 20% de moins que d'iPhone 17, ce qui est quand même énorme finalement. Et donc, l'idée, c'est de trouver où on va trouver la RAM. La RAM, il y a trois acteurs qui font de la RAM.
Alors, il faut démonter les iPhone 17, prendre la RAM du 17 et la mettre dans le 18. Non, mais
ce serait pas mal pour la planète au final.
C'est ce que je faisais quand j'étais jeune développeur. On allait, la nuit, on allait démonter dans les postes des
assistantes. La mémoire vive.
Dans les postes des assistantes qui avaient besoin juste de. C'était pas Word à l'époque, c'était Word Perfect.
Tu leur prenais une petite barrette de RAM.
Tu leur prenais des barrettes de RAM. Non, il est véridique.
Quel voyou, ce Fred Simotel, pardon.
Non, je finis vite fait. Il y a trois acteurs qui font ça. Et il y a un quatrième acteur qui est chinois, donc, dont tu as mentionné le nom, qui aujourd'hui était sur une liste noire du Pentagone. C'est-à-dire que cette entreprise est considérée comme une entreprise qui travaille avec l'armée chinoise. Il n'y a pas. Théoriquement, Apple peut quand même aller chez eux, mais il faut quand même avoir. Ils voudraient sécuriser l'accord de Washington avant de le faire. Et ça serait, il faut quand même préciser, ça serait pour les iPhones qui seraient vendus en Chine. Ça serait pas pour les iPhones qui seraient vendus aux États-Unis. Là, ça, je pense que ça passerait jamais. Mais finalement, voilà. Donc, ils essaient d'avoir l'autorisation de Washington. On ne sait pas si Washington va autoriser ça parce que finalement, cette boîte devait se retrouver sur la liste, une liste noire encore plus, plus grave parce que c'est, ils sont considérés être amis de, la, de l'armée chinoise. Donc, à voir si Tim Cook, qui, et a priori, ça sera Tim Cook qui va faire à partir de septembre, parce que Tim Cook va passer la main, on le sait, et l'une, des nouvelles, l'une de ses nouvelles fonctions, ça sera de négocier avec les gouvernements. Et donc, c'est peut-être lui qui ira voir Donald Trump ou l'administration américaine pour essayer de récupérer des puces chinoises.
Mais Apple doit se dire, mais c'est étonnant. Enfin, moi, je suis persuadé que dans les prochaines années, Apple va fabriquer lui-même sa mémoire. Je pense qu'ils vont investir parce que je pense qu'Apple doit détester la situation dans laquelle ils sont actuellement, d'être dépendant d'un fournisseur alors qu'ils essaient depuis des années d'être autonomes en fait dans ce domaine-là.
C'est compliqué hein, de faire l'argent.
Ouais, mais ça coûte quoi? Allez, combien? 50 milliards?
Beaucoup
plus que ça.
C'est pas par hasard que t'as que trois acteurs. C'est les autres n'en faire. En plus, la partie HBM qui est pour la partie IA, elle est encore plus complexe. Non, alors c'est pas aussi complexe que du ASML, mais c'est quand même des process compliqués. Et puis avant d'être rentable, tu vois, il faudra 10-15 ans, parce que le temps que tu fasses tous tes déchets, tout ça.
Ouais, mais là, en attendant, ils vont perdre beaucoup d'argent s'ils n'arrivent pas à shipper autant de
c'est
modèles.
C'est pas ce qu'on va faire à Elon Musk, etc.
Mais tu vois.
Non, c'est pas la puce mémoire. Et juste, Apple, ils peuvent concevoir la puce mémoire. À la limite, ils pourraient. Comme ils conservent aujourd'hui leur GPU, enfin leur processeur. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de capacité pour les produire. Donc, qui va les produire? Il faudra aller chercher ces TSMC qui ne produisent pas aujourd'hui de mémoire TSMC.
Et encore une fois, ça revient au même. T'auras beau avoir des robots, il faut de la manœuvre quand même, faut monter tout ça.
Il faut des machines aussi, les machines.
Mais à l'horizon, je sais pas moi, 10-20 ans, tu vois. Est-ce que c'est pas l'idée d'être autonome?
Mais peut-être qu'ils le feront. Il y a 15 ans, on disait Apple qui va faire son propre processeur, ils le feront jamais.
Personne n'y croit. Voilà. Aujourd'hui, ils font leur puce réseau. Qui aurait pu imaginer qu'Apple allait faire sa propre puce 5G, sa propre puce Wi-Fi? Ils le font maintenant.
L'autre soir, je présentais à la place de François Tech & Co et je disais ça au débat. Je me rendais compte, on est en train d'avoir un débat autour de la mémoire RAM. On t'aurait dit ça, mais il y a même 2 ans, on t'aurait dit non, mais t'es rigolo, attends, on n'est pas geek, enfin, technique et
bon. Ouais, c'est sûr. On arrête là parce que juste, j'aimerais qu'on enchaîne sur un dernier sujet, s'il te plaît, Salim, qui en plus va t'intéresser. Ouais. Peut-être que tu y étais à l'époque quand Google s'est fait choper avec cette amende de record de plus de 4 milliards de dollars. C'était en quelle année, ça?
2018, l'amende.
2018. Tu y étais déjà?
Ah oui,
j'étais
parti. 2012-2020, donc j'étais bien.
Ouais, tu étais bien dedans, voilà.
Bien dedans.
Donc, toujours pour des pratiques anticoncurrentielles. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer pourquoi Google avait été toqué par l'Union européenne à l'époque? Tu t'en souviens?
De mémoire, si tu veux, en gros, c'est quoi? C'est toujours sur cette position hégémonique, en fait, de se dire, OK, est-ce qu'à un moment, je donne droit à l'utilisateur de pouvoir avoir le choix, en fait? Et ça a été tranché. C'est que oui, il faut donner le choix. Et après, il y a eu plein de sites qui se sont portés, pas partie civile, mais en tout cas contre Google pour dire, nous, on est contraint par Google de passer par Google, en fait. Et c'est rigolo parce qu'à l'époque,
alors, c'était à but de position dominante concernant Android. Allez, vas-y, Jérôme.
Voilà. Après, reprochait la Commission européenne à Google, c'est de profiter de la position d'Android pour donner un avantage à son moteur de recherche et à Chrome. Et donc, grosso modo, le principal reproche était que Google obligeait les fabricants de téléphones Android,
donc les Samsung,
Xiaomi, tous les autres, à préinstaller obligatoirement, si on voulait avoir accès au Play Store, donc à la boutique d'applications, il fallait obligatoirement que Chrome soit préinstallé, que toutes les applications Google soient préinstallées, et notamment la barre de recherche sur l'écran d'accueil. Et finalement, ça verrouillait les gens, c'est que comme c'était avec Google qui était sur le téléphone, tu n'utilisais que Google. Et donc, il y a eu une plainte qui a été déposée en 2015, donc il y a 11 ans, et là, on arrive juste au bout.
Et puis, il verrouillait 90% du marché.
Bien sûr, mais toujours d'ailleurs.
Oui, toujours.
C'est vrai. Plus grosse amende
De l'histoire de l'Union européenne. Oui. 4,3 milliards qui a été ramené à 4,1 milliards.
Et alors, Fred, là, on en est au bout. C'est-à-dire qu'il y a eu appel, recours, etc. Là, il faut qu'ils payent.
Je pense qu'ils ont déjà payé.
Ils ont déjà payé,
Je pense que ce n'est pas suspensif. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'un, ils vont être exonérés.
Mais ils ont déjà donné les 4 milliards.
Je pense, oui. Je ne sais pas, mais je pense que oui. Ce qui change aujourd'hui, c'est que maintenant, comme c'est définitif, toutes les boîtes qui s'estiment avoir été abusées par Apple peuvent porter plainte. Et on l'a vu notamment sur Google Shopping. Il y a plein de procès qui sont en cours aux États, en Europe, pardon, sur
ça risque de faire un peu jurisprudence, c'est-à-dire que
en fait, c'est comme ils ont été définitivement condamnés, maintenant on peut les attaquer et demander des dommages intérêts.
Mais tu sais que si se font, moi, je même un peu plus loin, j'en parlais ce matin avec quelqu'un et qui connaît bien ces sujets-là, il me disait, mais s'ils se font attaquer effectivement par d'autres, on pourrait même commencer à reparler, entre guillemets, d'un démantèlement, le mot est un peu fort, mais à commencer à reséparer un peu tout ça. Hein, ça on pourrait en arriver là aujourd'hui. Et juste un dernier mot, parce que souvent on dit, ouais, mais 4 milliards pour Google, c'est ce qui est... Non.
Enfin, là-dedans. 4 milliards, c'est beaucoup. Hein.
Ouais, et je pense même, mais même 1 ou 2 millions, je dis toujours, ramenez ça à vous, on vous met une amende, même si vous avez des revenus confortables.
Après, tout dépend de ce que ça rapporte. Si par exemple, tu payes une amende de 2 millions et que tu t'es gavé pendant des années et que finalement ça te coûte qu'un 2 millions. Tu sais, c'est un peu comme le PV, quoi.
Je dis ça, tu vois, c'est un peu comme toi. Si t'as un revenu un peu confortable, on te met une amende de 10 euros, ça va pas, tu vas pas mourir à cause de ça. Mais tu te dis, ça t'embête quand même.
Ouais, ça pique.
pour moi, là, au-delà de, comme tu dis, hein, ça fait longtemps, plus de 10 ans que ce truc il est là. Mais le vrai truc que je vois, moi, au-delà de l'amende, il y a deux choses. Un, c'est que enfin l'Europe arrive à montrer que oui, il y a des règles en Europe et il faut les appliquer. Donc même si ça prend du temps, au moins c'est les appliquer et c'est déjà une bonne chose. La deuxième, c'est que justement par rapport à tout ce dont on a parlé sur ces nouvelles interfaces où tu auras une IA qui va piloter tout ça, il n'y aura même plus d'histoire de Google, de Microsoft, etc. Tu auras une interface qui va te donner accès au reste. Et qui aura le droit? Est-ce que ce sera un Google ou est-ce que ce sera un... Et comment on va gérer ça? Je ne sais pas du tout, en fait. Parce que il y aura forcément un monopole.
Et dans le pipe, il y a une autre amende de quasiment 3 milliards concernant justement les pratiques anticoncurrentielles dans la publicité en ligne.
Alors là, ça, c'est pas officiel encore.
On est au tout début du cheminement. Voilà. Ouais. Mais,
ils ont déjà eu beaucoup d'amendes. Je crois qu'ils en ont eu 4 déjà.
Ouais. Il y a eu celle de 1,7 milliard aussi avec Klarna.
C'est clair.
Ça, c'est encore
une chose aussi.
Écoutez, voilà. C'est sur ces chiffres mirobolants.
Multi-récidiviste, Google.
Multi-récidiviste, attendez.
Non, mais il faut se remettre dans l'époque. À une époque, il n'y avait pas de contrôle des États. Et là, on commence à se rendre compte que les États commencent à comprendre que...
La fête est finie.
Voilà, la fête est finie. Et qu'il y avait des supra-États qui étaient ces grosses boîtes. Et
cela dit, comme on dit, ils payent 4 milliards. Mais pendant toutes ces années, combien de milliards ont-ils engendré avec justement toutes ces pratiques qu'ils avaient ?
Mais combien de services ont-ils aussi offerts gratuitement ? Il faut aussi y penser.
Bien sûr. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Salim Nassur de Mars. Merci à Jérôme Marin. Cafetech.fr. Toujours, on lit et on l'apprécie. Et Frédéric Simotel. On se retrouve la semaine prochaine, mon Fred.
Bien oui.
Pour la dernière semaine de Tech & Co avant la Playa.
Et si on parlait d'OpenAI la semaine prochaine?
Tu crois? Oui, je pense qu'il y aura quand même deux, trois trucs à raconter là-dessus. Allez.